Alors Nicolas Lambert, vous êtes metteur en scène et acteur dans cette pièce de théâtre qui s'appelle Un avenir radieux, une fiction française, qu'on pourra voir le vendredi 6 avril à l'espace culturel à Avion. Alors peut-être d'abord, pour commencer, le point de départ de ce spectacle.
Alors, il y en a plusieurs, mais un des facteurs déclenchants, c'était d'entendre des publicités pour EDF ou pour Areva. L'année dernière, il y a eu une très belle campagne de publicité pour Areva. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une centrale au bord de la mer, sur une île, avec des gens qui dansaient à côté. C'était assez étonnant. C'est une campagne de publicité, c'est vrai, qui s'est arrêtée assez brutalement au mois de mars 2011. Il a fallu peut-être un petit peu éviter de parler de ces choses-là après l'accident de Fukushima. Mais le point de départ, c'était de savoir pourquoi il y avait de la publicité pour EDF ou pour Areva. Pourquoi ? Voilà, le principe de la publicité. Quand j'entends la publicité pour un produit, en général, c'est pour me donner envie d'en consommer. Et j'ai jamais remarqué que la publicité pour EDF me donnait envie d'en consommer plus. Donc voilà, c'est parti de cette réflexion-là et voilà, ça aboutit à ce spectacle qui permet de remonter un petit peu le fil du temps et d'essayer de comprendre comment on en est arrivé à cette situation étonnante d'être le pays le plus dépendant du nucléaire de la planète. Ça pose question.
Avant d'être sur scène, j'imagine un gros travail de documentation, de reportage finalement.
Oui, c'est ça. Oui, c'est une enquête qui m'a pris, quelques temps, quelques années, pour aller à la source et retrouver un petit peu comment les choses se sont passées et surtout dans quel cadre elles se sont exprimées, dans quelle bouche elles se sont exprimées, puisque ce que je propose après, c'est un spectacle, c'est du théâtre, c'est-à-dire c'est un gars sur scène qui fait qui interprète des personnages et voilà, moi j'interprète 23 personnages en compagnie de musiciens, c'est selon les représentations. Il y a toujours un musicien, soit Hélène Billard, soit Éric Chaland, qui est à l'initiative de la composition des morceaux. Et on se retrouve à deux sur scène à réinterpréter ce fil du temps et à raconter au public ce que j'ai pu retrouver sur 60 ans de nucléarisation de l'Hexagone.
Ce sont des images de l'avenir que nous a apporté cette semaine l'achèvement technique de la première centrale nucléaire française. EDF 1, sur le territoire de la petite commune d'Avoine, près de Chinon, a dévoilé le spectacle des centrales électriques de l'âge atomique. Dès l'été prochain, la sphère d'acier de 55 mètres de diamètre qui renfermera EDF 1 s'inscrira dans le paysage à côté des parallélépipèdes de béton de EDF 2. Les premiers kilowatts d'électricité d'origine nucléaire partiront vers le réseau de distribution. À Chinon, ce jour-là, l'atome commencera à prendre la relève des grands barrages et de leurs usines hydroélectriques.
Une des bases de ce spectacle, c'est aussi les discours sur le nucléaire. Alors, je ne sais pas si ça vous a amené à vous intéresser au discours sur le nucléaire depuis 50 ans. Qu'est-ce qui a changé dans ce discours, finalement ?
Ah, qu'est-ce qui a changé dans ce discours ? Il n'y a pas grand-chose, en fait, puisque la façon dont on nous ou plus exactement, il y a des grandes constances. C'est-à-dire qu'on nous explique que c'est l'énergie de l'avenir, que si on le fait pas maintenant, nos enfants nous le reprocheront, de ne pas leur avoir donné cette source de richesse qui était à notre portée, qu'il faut penser à la génération d'après. Mais ce qui est toujours présent dans ce discours-là, c'est qu'il faut penser à la génération d'après sans penser à un certain nombre de choses qu'on lègue aussi à la génération suivante. Et notamment en termes de coûts. On pourrait bien sûr parler des déchets pendant longtemps, des déchets nucléaires, puisque l'industrie nucléaire qui nous produit l'électricité qui en France produit des déchets dont on ne sait que faire. Mais le problème, c'est que également, on reporte le coût de nos légèretés actuelles quand aujourd'hui le président de la République, dans ses discours, met en avant le faible coût de l'électricité par rapport à nos voisins. et son prédécesseur en faisait tout autant, et son prédécesseur à lui également, et ainsi de suite pendant des années. Il faut quand même se rendre compte qu'on délègue aux générations suivantes le coût, un coût très important qui est pour l'instant inestimé et inestimable. Il se trouve qu'en France, on a un organisme qui est un des piliers du pouvoir, qui s'appelle la Cour des comptes, à qui on a demandé d'établir un rapport sur le coût du nucléaire en France il n'y a pas très longtemps, à la suite justement des accidents de Fukushima, qui ont fait prendre conscience à nos dirigeants que cette énergie avait quand même un coût. Et la Cour des comptes elle-même, la Cour des comptes de la République française, a montré dans son rapport que l'on fasse du nucléaire aujourd'hui ou pas, plus exactement que l'on continue cette filière ou qu'on l'arrête aujourd'hui, les coûts seront au moins les mêmes, puisque à l'avenir, il faut compter sur une filière de démantèlement des centrales. Vous savez peut-être que les centrales nucléaires qui tournent aujourd'hui arrivent en bout de course. Et il se trouve qu'on ne sait pas trop quoi faire de ces centrales en bout de course. On ne sait pas trop comment les démonter, on ne sait pas trop comment les démanteler, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire des combustibles qui restent, et on ne sait pas trop combien ça va nous coûter pour non pas les années à venir, mais pour les dizaines d'années à venir, pour les centaines d'années à venir, pour les milliers d'années à venir. Et si on commence à prendre en compte, au sens strict, c'est-à-dire en monnaie, ce coût, je crains qu'on ne laisse à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et générations à venir, une dette considérable.
Une histoire qui n'a pas fini de s'écrire. Continuons de l'écrire avec moins de CO2. Areva.
Vous avez parlé de la musique qui vous accompagne sur scène. Comment ça se présente un petit peu ce spectacle? Il y a aussi, des documents de la vidéo, des archives, ou vous êtes seul sur scène? Comment ça se passe un petit peu?
Je vais pas tout vous raconter non plus.
Surprise.
Il faut en garder un petit peu. Il faut garder un petit peu de surprise. Mais effectivement, oui, on se sert de tout ce que le nucléaire peut nous donner. De tout. Donc il y a de la musique électrique amplifiée sur scène. Il y a également. Alors c'est comme je vous disais, c'est soit Eric Chaland qui a l'initiative de la création de cette musique, soit Hélène Billard au violoncelle. Les deux sont sur des éléments, sur des instruments électriques à cordes. On a effectivement de temps en temps quelques petites figures fantomatiques qui sont dues aux vidéos d'Erwan Temple qui apparaissent de ci, de là. Et le reste du temps, c'est moi qui interprète les 23 personnages que je me permet de faire vivre ou revivre devant les spectateurs, pour que le public se fasse une idée, c'est-à-dire que c'est quand même c'est un documentaire, la proposition, donc c'est-à-dire que c'est des propos qui ont été tenus par des personnes qui ont existé ou qui existent, et c'est du verbatim, comme on dit, c'est texto ce qui a été dit par tous ces gens-là, et c'est ça qui me semble rendre le propos intéressant, voilà.
Et c'est un spectacle clairement anti-nucléaire ou finalement les gens, comme vous disiez, se font leur propre opinion à partir de ce qui a été dit et fait?
Oh ben je pose même pas la question du pro ou de l'anti. En fait, je me situe pas vraiment sur ce terrain-là. Je raconte l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Et la question que je pose au-delà du nucléaire est celle de l'état de la démocratie française. C'est un spectacle qui s'inscrit dans une petite trilogie, un petit bleu, blanc, rouge sur les produits de nos terroirs et qui pose pour moi la question de la démocratie, c'est-à-dire qui prend ses choix, pour qui et dans quelle optique. Qui prend ces grandes décisions sur le nucléaire, sur le premier volet que j'étais venu jouer aussi dans le cadre de Culture Commune et que je reviendrai jouer d'ailleurs prochainement, on tourne les deux spectacles en ce moment, s'appelle Elf la pompe Afrique et essaye de voir un petit peu comment à partir de nos anciennes colonies, on a bâti un empire industriel au service de notre république. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus que ça a été fait de façon très très démocratique. La question que je pose là que j'éclaire avec ce spectacle là sur le nucléaire français, c'est aussi celle de la possibilité d'avoir une réflexion sur le fait nucléaire. Le fait nucléaire, comment il s'est imposé et comment après il n'est plus question d'en parler, me semble être une question intéressante. Après, sur le fait d'être pour ou contre le nucléaire, je pense que en parler en termes de pro ou contre n'est pas forcément une solution, c'est un problème aussi. La question est de savoir ce que on pour moi, hein, sur ce spectacle, la question de base, c'est la question de savoir ce qu'il en est de l'état de la démocratie française.
Nicolas Lambert, donc je rappelle que vous êtes metteur en scène et acteur de la compagnie Un Pas de Côté. Donc on rappelle Un Avenir Radieux, une fiction française, c'est à voir le 6 avril à Avion, à l'espace culturel. Et puis donc Elf, Pompe Afrique, le premier volet en fait de la trilogie sera lui à voir le 20 avril, toujours à Avion, à l'espace culturel. Et un mot quand même sur le troisième volet de cette trilogie qui parlera d'armement, c'est ça ?
C'est ça, voilà, oui, qui me semble être aussi une spécialité bien de chez nous. Voilà, que pour l'instant, je peux pas en dire grand-chose. Je suis en train de l'idée serait également d'en faire un documentaire. Hein, c'est vraiment pour ces trois spectacles-là, l'idée c'est vraiment un gars qui va chercher de l'information, qui la recoupe et qui la met en scène. Et qui la propose, qui la soumet à un public. Donc là, je repars un petit peu à la pêche là pour savoir un petit peu, pour comprendre un petit peu mieux pourquoi cette industrie de l'armement est aussi présente chez nous, que ce soit dans l'industrie en tant que telle, ou que ce soit dans nos médias, ou est-ce que ce soit dans nos... Ben voilà, on est en train de... On a la chance là de parler dans un micro, mais on peut se poser la question de savoir pourquoi, sur la fréquence juste avant et sur la fréquence juste après, on a souvent des médias qui appartiennent à des grands groupes de l'armement en France. C'est une question qui me paraît se poser.
Un dernier mot, puisqu'on parlait un petit peu de fréquence, de radio, j'ai noté aussi sur le dossier de presse que vous aviez des expériences radio, notamment avec ce projet des fréquences éphémères. Et puis aussi, l'idée de votre compagnie, hein, c'était d'amener des spectacles de théâtre, à la fois sur scène, mais aussi dans des festivals rock et aussi à la radio. Alors, où ça en est, ça ?
Oui, effectivement, voilà, le principe actuel là de ces spectacles-là, c'est de faire un documentaire qui va sur la scène. Je le travaille effectivement comme un documentaire, comme j'ai pu travailler en radio, c'est-à-dire que c'est des documents que je mets les uns à côté des autres et c'est la proximité de ces documents-là qui donne un sens à un discours. C'est un reportage au sens strict. je rapporte des propos. Et effectivement, ben voilà, je continue un petit peu à toucher de temps en temps à cet outil formidable qu'est la radio. Et d'ailleurs, les spectacles sont enregistrés et peuvent continuer à vivre leur vie à travers les ondes. Oui, ça c'est un travail qui m'intéresse toujours, bien sûr.
Et le dernier mot alors sur les fréquences éphémères.
Fréquences éphémères, c'est une association qui continue à exister, qui a l'initiative d'un homme de radio qui s'appelle Antoine Chao, qui travaille aujourd'hui pour le service public et qui de temps en temps cette fréquence éphémère continue à aller de ci de là que ce soit pour des festivals, hein, par exemple le festival, alors il y en a plusieurs qui sont plutôt en ce moment, les festivals qui sont couverts par cette radio sont plutôt dans le sud, comme un festival de musique du monde du côté de Arles ou un autre de musique et de réflexions diverses qui se trouve à Uzest. Et puis voilà, c'est un projet qui selon les années se réveille ou pas, ça dépend un peu du temps, voilà, des membres du collectif, ouais.